Surnommé le Cobra, César ou tout simplement le James Bond israélien, Michael, dit Mike Harari, est un véritable héros dans son pays, encore des années après sa mort en 2014. Une popularité arrivée sur le tard, dont cet homme discret et plutôt froid se serait bien passé. Lui, qui en vrai espion, a toujours travaillé dans l'ombre et dans l'anonymat. Très peu d'images de lui, il interdisait qu'on le prenne en photo. Même les missions qu'il a accomplies pendant plus de 20 ans restent pour la plupart inconnues. Il n'empêche, pour les Israéliens, Mike Harari personnifie le combat audacieux, impitoyable, mené dans les années 70 contre le terrorisme palestinien. À la tête du service action du Mossad, c'est lui qui a dirigé l'opération Colère de Dieu, qui visait à assassiner méthodiquement, un par un, les auteurs en 1972 de la prise d'otage des JO de Munich. Une responsabilité qu'Israël mettra plus de 20 ans à reconnaître.
France Inter, Stéphanie Duncan, Espion, une histoire vraie.
France Inter, 23 novembre 1993.
Une campagne méthodique de liquidation officiellement reconnue depuis hier par l'ancien chef des services de renseignement militaire, le général Aharon Yariv. Alors, le Premier ministre nous a demandé de les rechercher, de les trouver et de les éliminer systématiquement. Au total, un peu plus d'une dizaine de responsables palestiniens, mais aussi un serveur marocain tué par erreur en Norvège, tomberont au cours de cette campagne des ombres inspirée de la loi du talion.
De fait, Mike Harari est sans doute l'espion qui, par sa créativité et son acharnement, a le plus contribué à forger la réputation d'invincibilité du Mossad. Mais on le verra, le héros, même pour ses compatriotes, a aussi sa face sombre, celle moins glorieuse des bavures, de l'appât du gain et des compromissions douteuses. Mike Harari appartient à cette génération d'agents du Mossad qui, dans leur jeunesse, ont contribué à créer l'État d'Israël. Ce fils de douanier d'origine russo-polonaise, né en 1927 à Tel Aviv, dans une Palestine sous mandat britannique, est confronté très tôt à la violence. Des images vont le marquer à vie.
J'avais 9 ans. Lors d'un affrontement entre Arabes et Juifs, j'ai vu une Jeep incendiée. Le corps calciné d'un sergent anglais encore agrippé au volant.
Ce qui n'empêche pas le petit Mike de se jeter dans la bagarre contre les Arabes, un manche de pioche à la main. Et c'est le même qui, à 16 ans, ment sur son âge pour entrer au Palmach, l'armée secrète sioniste, qui fait l'objet à l'époque d'un reportage du cinéaste Jean-Pierre Melville.
Pour joindre les soldats du Palmach, il faut pénétrer dans le Negev, c'est-à-dire en plein désert. Ils sont chargés d'établir la police dans cette région où n'existe aucune ville et où des colonies juives isolées sont séparées quelquefois par 60 km de sable. Toute la journée, ils sillonnent les routes, ils assurent le ravitaillement, ils visitent les différentes colonies, s'occupent des soins, s'occupent de tout ce qui peut être nécessaire à la vie même du kibbutz.
Mais la réalité ressemble moins à un camp scout. Au Palmach, Mike s'initie surtout au renseignement et au sabotage. Maniement des armes et des explosifs, faire sauter des voies ferrées ou des ponts, attaquer un poste de police. Plusieurs fois arrêté et emprisonné par les Anglais, le futur espion est à bonne école. Après la Seconde Guerre mondiale, Mike Harari, qui parle 7 langues, est envoyé par la Haganah, l'armée clandestine sioniste, en Europe, notamment à Marseille et à Naples, pour convoyer vers la Palestine des navires chargés de juifs rescapés de la Shoah. Clandestinement, puisque les Britanniques limitent l'immigration juive et parfois mènent des attaques contre les navires pour les empêcher d'accoster. Encore une expérience dont Mike Harari sera tiré profit un jour. De cette époque d'intenses transactions secrètes, il reste une photo, prise sans doute à son insu. Un homme en imperméable marchant dans une rue de Milan, brun, grand, mince, séduisant.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
Le 14 mai 1948, le rêve de Mike Harari se réalise. David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Rapidement, les services secrets du nouvel État repèrent ce jeune homme inventif et qui n'a pas froid aux yeux. Mike s'occupe d'abord de la sécurité d'un aéroport, puis il supervise celle de toutes les ambassades d'Israël dans le monde. Très vite, il gravit les échelons du Mossad, qui en 1954, Mike n'a que 27 ans, le nomme chef de station à Paris. Une capitale où il se sent bien, lui qui aime l'art, l'opéra, s'habille avec soin et élégance, toujours entouré d'un halo de parfums de chez Rochas. Exprimant de cette manière un goût personnel, mais aussi, en bon espion, son souci extrême du détail pour coller au plus près de sa légende d'homme du monde européen. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Mike Harari est un dur, qui aime commander et n'hésite pas à tirer s'il le juge nécessaire. De ses activités dans ces années parisiennes, on ne sait pas grand-chose. En 1965, le Mossad apporte son aide logistique au service secret marocain dans l'enlèvement et l'élimination de l'opposant du roi Hassan II, Mehdi Ben Barka. Mais rien ne prouve que Mike Harari soit lui-même impliqué dans cette affaire. À la fin des années 60, alors que le renseignement israélien connaît une série d'échecs, Mike est chargé de reprendre en main le département des opérations spéciales, au sein duquel il va créer le Kidon, le mot hébreu pour baïonnette. Le Kidon, un corps d'élite hautement entraîné au tir et au combat rapproché, capable de commettre hors d'Israël des sabotages et des assassinats ciblés. Avec une discipline d'acier, Mike Harari, qui exige une obéissance totale, fait vivre l'enfer à ses nouvelles recrues.
Nous avons passé 3 jours épouvantables, sans dormir, menottés, les yeux bandés. Des policiers nous frappaient et nous crachaient dessus. Le but était de voir qui craquerait et qui tiendrait, sans trahir sa couverture.
Ce qui n'empêche pas Mike Harari d'être vénéré comme un dieu par ses agents, hommes et femmes. En 1971, il les emmène au cinéma à Tel Aviv, voir le dernier James Bond, Les Diamants sont éternels, avec Sean Connery. Diamonds are
forever. My name is Bond.
They are all I need to please me.
James Bond.
Et à la sortie, les pauvres ont droit à un débriefing.
C'est très joli tout ça. Grimper sur les toits et tirer des coups de feu. Mais rappelez-vous toujours, nous ne vivons pas dans un film. Notre premier devoir est de ne pas être découvert, d'agir et de partir vite, sans nous faire remarquer.
Au tournant des années 60-70, les événements vont donner raison à la stratégie ambitieuse et coûteuse aussi de Mike Harari. Malgré la victoire éclatante d'Israël à la guerre des Six Jours en 1967, ou à cause d'elle, les Palestiniens lèvent de plus en plus la voix pour réclamer le retour à leurs terres. Et le premier d'entre eux, le leader de l'OLP, Yasser Arafat.
Je dis et je répète que nous n'avons que faire des résolutions des Nations Unies ou d'autres qui essaie de conférer aux actes de banditisme et de piraterie des Israéliens une légalité que nous ne reconnaissons en aucun cas. Nous ne reconnaissons qu'un seul fait, celui d'être un peuple qui doit rentrer chez lui. Et ce peuple a choisi l'unique moyen de retour, celui de la lutte armée.
Et Israël doit faire face à un nouveau phénomène imprévisible, le terrorisme palestinien.
L'équipe israélienne participant aux Jeux Olympiques aurait été attaquée cette nuit au village olympique par un commando de terroristes palestiniens. Un Israélien aurait été tué, un autre enlevé, et l'on ignore encore s'il y a eu des blessés.
Ce 5 septembre 1972, aux Jeux Olympiques de Munich, les premiers qui se tiennent en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, un commando palestinien nommé Septembre Noir a abattu au petit matin deux athlètes israéliens et en garde 9 autres en otage. Il réclame la libération de plus de 200 de ses militants détenus en Israël. À Tel Aviv, Golda Meir, la première ministre, fait savoir qu'elle refuse toute négociation. À Munich, un avion est mis à la disposition des terroristes. Mais à l'aéroport, le plan de la police allemande pour sauver les otages échoue.
Un carnage. L'affaire de Munich se termine dans le sang. Au cours d'une fusillade entre les fédaïnes palestiniens et la police allemande, tous les otages israéliens, membres de la délégation israélienne aux Jeux Olympiques, ont été tués.
Au total, 11 Israéliens sont tués, devant les caméras du monde entier, sans que les agents du Mossad arrivés sur place n'aient le droit d'intervenir. Au sentiment d'impuissance et de colère, va succéder à Tel Aviv la conviction, justifiée ou non, que les Israéliens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Golda Meir, conseillée par le Mossad, ne tarde pas à décider que c'est en Europe qu'il faut frapper. Pourquoi en Europe ? Parce que c'est là, pense le Mossad, que se cachent les membres de l'OLP. Mais surtout parce que ce sont des pays amis d'Israël, des démocraties où s'il arrivait par malchance qu'un agent israélien soit arrêté, il ne risquerait pas la peine de mort et un arrangement serait toujours possible pour obtenir sa libération. Un mois à peine après la tuerie de Munich, Mike Harari reçoit de Golda Meir le feu vert pour liquider sur le sol européen les Palestiniens impliqués dans l'attaque de Munich. C'est le début de l'opération Colère de Dieu qui, nuit et jour, pendant des mois, des années, va obséder Harari et ses agents du Kidon.
Nous avons 11 Palestiniens identifiés. Chacun d'eux est impliqué dans Munich. Vous allez tuer ces hommes, 11 hommes, un par un. On veut que la terre entière lise dans Le Monde un célèbre terroriste arabe est mort. Va savoir qui a mis la bombe.
Harari installe son poste de commandement à Paris, cette ville qu'il est heureux de retrouver. En guise de couverture, il s'invente l'identité d'un homme d'affaires français très riche, nommé Édouard Lasquier, amateur de safari en Afrique. D'ailleurs, pour valider sa légende, Mike Harari, que ce soit à l'aéroport ou dans les palaces, ne cache pas que parmi ses bagages de luxe, il transporte aussi des armes. Mais ce ne sont pas des éléphants qu'il va tuer. La première cible de Harari, dans le cadre de l'opération Colère de Dieu, s'appelle Wael Zouetter, un intellectuel palestinien qui travaille comme traducteur à l'ambassade de Libye en Italie. Un soir d'octobre 1972, à Rome, donc un mois seulement après Munich, l'homme, suivi par deux agents du Kidon, est repéré alors qu'il sort de chez des amis.
La belle Sarah est sortie de l'immeuble et rentre à la maison.
Depuis son poste de commandement, Mike Harari répond.
Ok, allez-y. Préparez-vous à l'engagement.
Une demi-heure plus tard, Zouetter, alias la belle Sarah pour le Mossad, arrive à son domicile. Alors qu'il appelle l'ascenseur, deux hommes surgissent de la pénombre et l'abattent de 11 coups de pistolet Beretta équipés de silencieux. Zouetter s'écroule avec à côté de lui le manuscrit des Mille et une nuits dont il venait de terminer la traduction. Les membres du commando ne mettront que quelques heures à quitter l'Italie et à rejoindre Israël sans être inquiétés. Mission réussie. Deux mois plus tard, c'est à Paris cette fois que les agents de Harari doivent frapper. Leur cible, Mahmoud Hamchari, le représentant de l'OLP en France. Le 3 décembre, deux agents du Kidon s'introduisent dans son appartement et placent un explosif dans le socle de son téléphone. 5 jours plus tard, le Palestinien reçoit un appel.
Vous êtes bien, monsieur Hamchari ?
À peine a-t-il répondu oui que par le moyen d'un détonateur à distance, le socle du téléphone explose.
Représentant de l'organisation de la résistance palestinienne en France, M. Mahmoud Hamshari a été grièvement blessé par l'explosion d'une bombe ce matin. L'Union générale des étudiants palestiniens attribue cet attentat, je cite, à des mains sionistes criminelles.
Quelques jours plus tôt, le même Hamshari était interviewé par un journaliste français.
Est-ce que vous pouvez vivre tranquille en France? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie?
Pour moi, non, mais je pense qu'il ne faut pas tenter le diable.
Pour Mike Harari, cette deuxième opération a été plus compliquée. Golda Meir, la première ministre israélienne, lui avait donné un ordre clair, ne pas tuer d'innocents. Or, le représentant de l'OLP à Paris vivait avec sa femme et leur fille. Il avait donc fallu s'assurer qu'elle soit sortie pour passer à l'action. Des précautions éthiques louables, qui ont cependant leurs limites. Le journaliste israélien Ronen Bergman, dans son livre récent « Lève-toi et tue », qui retrace l'histoire des assassinats ciblés commandités par Israël, remarque que Wael Zouater, par exemple, n'avait aucun rapport avec la prise d'otage à Munich et que les véritables responsables se cachaient non pas en Europe, mais au Moyen-Orient ou dans des pays de l'Est où il était beaucoup plus difficile de les atteindre.
Stéphanie Duncan, espion. Une histoire vraie.
En 1973, un informateur libanais fournit à Mike Harari un renseignement inespéré. Les adresses personnelles à Beyrouth de trois hauts dirigeants de l'OLP, Mohamed Youssef Al-Najjar, Kamal Adouan et Kamel Nasser. Mais comment frapper au cœur de la capitale d'un pays ennemi et surtout, comment en ressortir indemne? Pour évaluer l'opération, Harari envoie sur place une agente, Yael, avec une couverture surprenante. Yael est une scénariste canadienne, elle vient à Beyrouth pour écrire un film sur une Anglaise qui a vécu au Liban au 19e siècle. En réalité, Yael, une jeune femme un peu hippie avec sa jupe longue et ses grandes lunettes de soleil, circule dans le pays notant les habitudes des dirigeants de l'OLP. Et avec un appareil dissimulé dans son sac à main, elle prend en photo leur domicile, les rues de Beyrouth, ainsi que des sites possibles pour un débarquement clandestin. Mais Mike Harari se rend vite compte qu'une équipe du Kidon ne pourra seule réaliser une telle action. Engageant des moyens énormes, c'est donc avec l'armée israélienne et à deux équipes que l'opération Printemps de la Jeunesse est montée. Avril 1973. Depuis l'Europe, six agents du Kidon, munis de faux passeports, s'envolent pour le Liban. À Beyrouth, ils louent des véhicules et attendent dans un hôtel. Trois jours plus tard, huit vedettes israéliennes quittent la base navale de Haïfa et jettent l'ancre au large du Liban. Depuis Beyrouth, Yael informe les deux équipes que les trois dirigeants de l'OLP sont bien à leur domicile, donnant ainsi le feu vert à l'un des assassinats ciblés les plus audacieux jamais montés par Israël. Et les plus risqués aussi, car en cas de problème, aucun moyen de sauvetage n'est possible. Embarqués sur des zodiacs, les militaires de la deuxième équipe accostent à la nuit tombée à Beyrouth, sur la plage repérée par Yael. Ils montent dans les véhicules des agents du Kidon, qui prennent aussitôt la direction du centre-ville. Sur place, les hommes sortent de voiture et finissent le trajet à pied. Pour ne pas attirer l'attention dans ces rues animées, certains des soldats sont habillés en femmes. C'est le cas d'un certain Ehud Barak. Il est cocasse d'imaginer le futur premier ministre israélien, qui est alors un brillant militaire de 30 ans, porter une perruque et une longue jupe pour mieux cacher sa mitraillette. Arrivé devant les immeubles des dirigeants de l'OLP, les commandos, scindés en trois équipes, montent sans bruit les escaliers et font exploser les portes des appartements visés. Les trois chefs palestiniens, Al-Najjar, Nasser et Adouan, surpris dans leur sommeil, sont abattus par des rafales de mitraillettes. Dans la rue, après une fusillade nourrie avec la police libanaise, les commandos israéliens rejoignent sans encombre la plage où les attendent les zodiacs et ils embarquent pour Israël. Mission accomplie. On imagine la fierté de Mike Harari qui a suivi toute l'opération depuis un bunker souterrain à Tel Aviv. L'opération Printemps de la Jeunesse, qui affaiblit l'OLP et provoque une grave crise politique au Liban, renforce Mike Harari et, pour le monde, accrédite l'idée que le Mossad peut frapper partout, même en pays ennemi. En un an, les agents du Kidon éliminent 14 Palestiniens. Mais pour Mike Harari, grisé par le succès, ce n'est pas assez. Car le Palestinien suspecté d'être le vrai cerveau du massacre de Munich reste introuvable. Ali Hassan Salameh, le fils d'un grand commandant palestinien mort à la guerre. Jeune, beau gosse, aimant les femmes et la fête, Ali Hassan Salameh est aussi un protégé de Yasser Arafat. Mais à l'été 1973, Mike Harari est informé que le Palestinien se trouve en Norvège, à Lillehammer, une petite ville au nord d'Oslo. Il monte rapidement une équipe. Lui-même, qui ne veut pas rater cette prise, sera de la partie. Après un long voyage, les espions israéliens, à Lillehammer, localisent un homme de type arabe, dont Harari se persuade qu'il s'agit de Salameh. Le 21 juillet, ne laissant aucune place au doute, ils le suivent en voiture alors qu'il sort d'un cinéma avec une jeune femme. Arrivé à leur niveau, la voiture s'arrête, deux agents en descendent, tirent à 8 reprises sur leur cible et remontent en voiture, laissant sur le trottoir un cadavre criblé de balles et une femme en larmes, enceinte de 7 mois. Mike Harari, sûr et fier d'avoir éliminé Salameh, quitte la Norvège, caressant l'espoir d'être bientôt nommé patron du Mossad. Mais à l'escale d'Amsterdam, sur les télévisions de l'aéroport, Harari découvre la nouvelle.
Ahmed Bouchiki, c'est ce ressortissant marocain qu'un groupe d'action terroriste israélien a assassiné samedi dernier. Il l'avait pris pour un membre de Septembre Noir. Or, un attaché de l'ambassade israélienne à Oslo est impliqué dans cette affaire. La police a retrouvé chez lui deux des auteurs de l'assassinat.
Ahmed Bouchiki, un jeune Marocain qui vivait une vie tranquille avec sa femme en Norvège et dont le frère, Chico Bouchiki, sera un jour le guitariste des Gypsy Kings. Cette bavure, exposée au monde entier, va coûter cher à l'image d'Israël. Plusieurs agents de la folle équipée ont été arrêtés par la police norvégienne et ont fini par parler, contrairement à la règle d'or de l'espionnage, ne jamais avouer. Ils seront condamnés à de la prison, mais le gouvernement israélien négociera rapidement leur libération. Quant à Mike Harari, non seulement il n'obtient pas la promotion espérée, mais suite à des indiscrétions, il voit son nom étalé dans la presse, le pire qui puisse arriver à un espion. La mort dans l'âme, Mike Harari vient présenter sa démission à la première ministre. Golda Meir, qui a un lien quasi affectif avec les agents du Mossad, répond qu'il n'en est pas question, elle a encore besoin de lui.
Golda Meir m'a préparé un thé dans sa cuisine et s'est efforcé de me remonter le moral.
Mike Harari donc garde son poste, mais sa réputation est entachée et Ali Hassan Salameh court toujours.
Son heure viendra, n'ayez crainte.
Ce que Mike Harari et le Mossad ont longtemps ignoré, mais qu'ils découvrent au milieu des années 70, c'est que Salameh est protégé par la CIA. Il aurait même développé une relation de confiance, voire d'amitié, avec le chef de la CIA au Proche-Orient. Au point peut-être, se demande le Mossad, que celui-ci aurait prévenu Salameh quand Mike Harari était sur ses talons. Si pour les États-Unis, officiellement, l'OLP est une organisation terroriste, la CIA garde un lien secret avec Salameh, qui en échange promet que son organisation n'agira pas sur le sol américain. En 1977, la CIA va même jusqu'à organiser une lune de miel à Hawaï et Disneyland pour Salameh et sa jolie épouse, Georgina Risk, ex-Miss Liban, devenue 6 ans plus tôt Miss Univers.
Miss Lebanon! Now, Miss Lebanon here is Georgina Risk. She's a model in Beirut. How do you smile and keep smiling?
Oh, because I'm happy, you know, so I'm smiling all the time.
Thank you, Miss Lebanon.
Mais le bonheur de Miss Univers ne durera pas. En 1978, le Mossad, apprenant que Salameh vit à Beyrouth, décide à nouveau de frapper. pour tuer le responsable à leurs yeux de l'attentat de Munich, mais aussi sans doute pour briser le lien entre LP et CIA. Et Mike Harari, qui a une revanche personnelle à prendre, est chargé de l'opération. Pas question cette fois de le louper. Mais quel mode opératoire choisir? Glisser un poison dans le tube de dentifrice de Salamé? Placer un explosif dans le casier de sa salle de sport? Mike Harari opte finalement pour une troisième solution. Placer une bombe dans une voiture en stationnement qui sera déclenchée à distance au moment où Salamé passera devant. L'opération est confiée à trois agents, deux hommes et une femme, Rina. Officiellement, Rina travaille à Beyrouth pour une ONG qui s'occupe d'orphelins palestiniens. Elle loue un appartement juste en face de celui de Salamé et pendant deux mois, elle suit ses allées et venues. Les deux agents, eux, ont transporté à Beyrouth les explosifs qu'ils ont placés dans une Volkswagen garée devant l'immeuble. De sa terrasse, Rina a une vue plongeante sur la rue. Le 22 janvier 1979, Ali Hassan Salamé, après son déjeuner, embrasse sa femme, sort de chez lui et, escorté de ses gardes du corps, prend sa voiture. À l'instant précis où il roule devant la Volkswagen, Rina actionne le déclencheur et la bombe fait voler en éclats la voiture de Salamé. Il ne survivra pas à ses blessures. Huit autres personnes, des passants, sont également tuées par l'explosion. Mike Harari est satisfait. L'ennemi qu'il traque depuis 7 ans et qui a failli ruiner sa carrière est enfin mort. Une victoire qui contribue à redorer son blason après le fiasco de Lillehammer. Mais 3 ans plus tôt déjà, Mike Harari avait joué un rôle capital dans la résolution d'une crise totalement inédite. France Inter, 27 juin 1976.
Un avion d'Air France a été détourné sur la Libye. Un appareil Airbus qui assurait la liaison Tel Aviv-Athènes-Paris, vol 139. C'est après l'escale d'Athènes que les pirates de l'air sont passés à l'action. Le contact radio a été rompu 27 minutes après le décollage de l'aéroport de la capitale grecque. On a un petit décompte des passagers. 246, dont un bébé et 13 membres d'équipage. On sait qu'au départ de Tel Aviv, 83 Israéliens avaient pris place dans l'Airbus. Il y a plus de 4 heures que cet avion est stationné en bout de piste sur l'aérodrome libyen de Benghazi. Les négociations semblent être engagées. Les Israéliens estiment en tout cas que les pirates de l'air sont au nombre de 5 ou 6. Les soupçons se porteraient sur un couple qui a embarqué à Athènes avec un billet délivré au Koweït il y a quelques jours.
Les terroristes sont des Palestiniens du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, et deux Allemands de la fraction armée rouge, la bande Abadère. Après avoir fait le plein à Benghazi, ils mettent le cap sur Entebbe en Ouganda. Ce pays, gouverné par un dictateur fou, Idi Amin Dada. Longtemps soutenu et financé secrètement par Israël en échange de contrats militaires, Amin Dada est devenu entre-temps un allié du Libyen Kadhafi et donc un ennemi d'Israël. À Entebbe, les pirates de l'air, qui exigent la libération de 53 de leurs compagnons emprisonnés, relâchent les 209 otages non-juifs. Les membres d'équipage d'Air France, faisant preuve d'un grand courage, refusent de se désolidariser des 83 autres otages, tous juifs ou israéliens. À Tel Aviv, dès l'annonce du détournement, le Mossad et le Premier ministre, Yitzhak Rabin, ont réuni une cellule de crise et s'interrogent. Comment intervenir à plus de 5000 km au milieu de l'Afrique dans un pays ennemi? La situation est si difficile qu'au fil des heures, le gouvernement, sous la pression de son opinion, semble prêt à rompre avec ses principes et à négocier avec les terroristes. C'est là que Mike Harari intervient. Il propose d'envoyer en Ouganda un pilote du Mossad. Mike Harari, en effet, quelques années plus tôt, avait eu l'idée de génie de former au pilotage un de ses agents du Kidon. Un investissement qui, ce jour-là, se révèle providentiel. Le plan est immédiatement mis en œuvre. Arrivé à l'aéroport d'Entebbe, le faux pilote, déguisé en anglais chasseur de safari, prend secrètement une série de clichés qui, à son retour express à Tel Aviv, permettent à l'armée israélienne d'organiser leur spectaculaire raid sur Entebbe et de sauver presque tous les otages.
Eh bien, l'opération Entebbe commence peu avant minuit, heure française. Trois avions non identifiés surgissent dans le ciel ougandais. Nul ne sait alors qui ils sont, ni d'où ils viennent. En tout cas, en quelques instants, ces trois Hercules C-130 déversent sur l'aéroport d'Entebbe de petits groupes d'hommes qui se fondent dans la nuit. Objectif, le hangar où sont enfermés les Palestiniens et leurs otages, un hangar qui est complètement ceinturé par les forces ougandaises. Que se passe-t-il alors? C'est le mystère. Toujours est-il qu'une demi-heure plus tard, tout est fini. Les trois Hercules C-130 décollent de l'aéroport d'Entebbe. À leur bord, tous les otages et l'équipage d'Air France. Quant aux Palestiniens, ils ont été abattus.
Le raid sur Entebbe en juillet 76 stupéfie le monde par son audace, au point que l'opération prendra date dans la gestion des détournements d'avions et des prises d'otages. Ne pas négocier avec les terroristes, intervenir rapidement pour sauver les otages, même si le coût humain peut être élevé. Mais cette victoire garde pour le Mossad un goût d'inachevé. Si les preneurs d'otages, eux, ont tous été tués, le cerveau de l'opération est toujours en vie. Wadi Haddad, le chef du FPLP. Pour l'assassiner, le Mossad opte pour une méthode silencieuse. Wadi Haddad, en mars 78, transporté d'urgence dans un hôpital à Berlin-Est, meurt dans d'horribles souffrances au ventre sans qu'on ait pu déceler l'origine de son mal. Le dentifrice, qu'il utilisait tous les jours depuis 2 mois, contenait en fait un poison mortel. À la fin des années 70, Mike Harari est donc au Mossad le héros du raid d'Entebbe et celui qui a eu raison de son ennemi, Ali Hassan Salamé. Fort de ses victoires, c'est donc la tête haute que Mike Harari, en 1980, décide de tirer sa révérence après 26 ans de bons et loyaux services au Mossad. Mais 53 ans, c'est tout de même un peu jeune pour prendre sa retraite. En réalité, comme beaucoup de vieux espions, Mike Harari quitte le Mossad pour aller travailler dans le privé. L'expérience dans les services secrets y est appréciée et se monnaie cher. Mike Harari disparaît donc des radars. Mais son nom va ressurgir 10 ans plus tard, dans des circonstances dramatiques et dans un pays pour le moins surprenant, Panama en Amérique centrale. France Inter, le 20 décembre 1989, Jean-Luc Hesse est en direct depuis Washington.
George Bush a finalement décidé d'en terminer avec Noriega. Il y a une heure maintenant, les troupes américaines basées au Panama ont été lancées contre le quartier général des forces armées panaméennes. But de l'opération, d'après le porte-parole de la Maison-Blanche, protéger les citoyens américains vivant au Panama, restaurer la démocratie et s'assurer de la personne du dictateur. Noriega est en effet recherché aux États-Unis pour trafic de drogue et le président américain a décidé de le faire comparaître devant un tribunal manu militari.
Mais quel rapport, me direz-vous, avec notre espion retraité ? En 1989, le grand public découvre qu'un certain Mike Harari travaille depuis plusieurs années pour Manuel Noriega. Le dictateur panaméen, longtemps soutenu par les États-Unis, est donc lâché en 1989 par George Bush. Les Américains arrivés sur place pour arrêter Noriega comptent bien également mettre la main sur son conseiller militaire. NBC, le 3 janvier 1990.
Les États-Unis n'ont pas trouvé tous ceux qu'ils cherchaient à Panama, comme Mike Harari, un ancien haut gradé des services secrets israéliens qui est devenu le conseiller en sécurité et finances de Noriega. Apparemment, Harari s'est enfui du Panama. D'après un officiel américain, il est maintenant de retour en Israël.
En effet, on apprend que Mike Harari se trouve en Israël, dans sa maison d'Afeka, une banlieue chic du nord de Tel Aviv, comme par enchantement. Plusieurs questions alors se posent. D'abord, comment Mike Harari a-t-il pu échapper aux Américains ? Il est fort possible que l'ex-espion israélien ait été effectivement arrêté alors qu'il cherchait à fuir le Panama. Mais que finalement, après des échanges téléphoniques entre Washington et Tel Aviv, le gouvernement américain aurait décidé de le relâcher et de le laisser franchir la frontière. Arrivé au Costa Rica, le pays voisin, Mike Harari serait monté dans un avion spécialement affrété pour lui par le premier ministre israélien d'alors, Itzhak Shamir. On imagine en effet que pour le gouvernement israélien, il était hors de question que leur ancien maître espion du Mossad, le héros de l'opération Colère de Dieu, soit arrêté par les Américains. Mike Harari, ancien espion. En réalité, il est fort probable même que pendant toutes ces années, Harari n'ait jamais cessé de travailler pour Israël, ou du moins en accord avec Israël. Après sa retraite à 53 ans, il a bien rejoint dans le privé une compagnie d'assurance. Mais très vite, comme on peut l'imaginer, l'ennui et le manque d'action se sont fait sentir. Mike Harari s'est alors adressé à son ancien employeur, le Mossad, qui lui a proposé de le représenter en Amérique du Sud. C'est ainsi que Harari aurait commencé à travailler avec Manuel Noriega, qui était alors le chef des services secrets panaméens. En 1981, quand Noriega a pris le pouvoir, c'est donc quasi naturellement que Harari est devenu son conseiller militaire. Former et entraîner la garde personnelle de Noriega, réorganiser son service de renseignement. Mais l'ex-espion du Mossad aurait également développé un important et juteux commerce d'armes entre Israël et Panama. Mais tout cela, Mike Harari le niera toujours.
Les Américains disent que je suis un conseiller de Noriega. Je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Je n'étais au Panama qu'à titre privé pour faire des affaires.
Avec lui, en tout cas, on n'en a pas fini des mystères. À la fin des années 2000, en Israël, le vieux monsieur reçoit la plus haute distinction du Mossad pour récompenser, je cite, « son importante contribution à une activité opérationnelle unique ». Mais de quelle opération secrète peut-il s'agir ? Quelque chose en tout cas de stupéfiant qui, lors de la cérémonie, d'après des témoins, laisse bouche bée les jeunes recrues du Mossad. Mais les témoins n'en diront pas plus. D'après le journal Times of Israel, la mission de Mike Harari faisait partie des efforts clandestins du Mossad pour contrecarrer le programme nucléaire de l'Iran. Bernard Guetta sur France Inter, le 13 octobre 2010. Le 7-9.
Hier matin, Massoud Ali Mohammadi, 50 ans, professeur de physique nucléaire à l'université de Téhéran, sort de chez lui et vit ses derniers instants. Commandé à distance, une moto piégée explose sur son passage, le tuant net, faisant exploser toutes les fenêtres à 50 mètres à la ronde et blessant de nombreux passants. Ce n'est pas le genre d'assassinat qu'organise un mari jaloux, c'est un travail de professionnel, l'œuvre de services secrets, mais lesquels ? Pour le ministère iranien des Affaires étrangères, pas de doute. Les premiers éléments de l'enquête, affirme son porte-parole, révèlent des signes de l'action maléfique du triangle formé par les États-Unis, le régime sioniste et leurs mercenaires.
Y a-t-il un lien entre cette affaire et Mike Harari ? Les années suivantes, en tout cas, d'autres scientifiques iraniens impliqués dans le programme nucléaire trouveront la mort à Téhéran dans des circonstances mystérieuses. Mike Harari mourra en 2014 à l'âge de 87 ans. Quelques mois auparavant, il reçoit chez lui des journalistes. Sur le piano, dans le salon, trône un impressionnant pistolet Beretta, souvenir sans doute de l'opération Colère de Dieu. Mais quand les journalistes veulent prendre des photos, Mike Harari exige que le pistolet n'y apparaisse pas.
Nous n'avons jamais été des tueurs. Nous avons fait ce que nous devions faire pour défendre l'État d'Israël.
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.